Dans l'éveillé des siècles passés, les contes n'étaient pas racontés par un conteur attitré, mais par les personnes qui parlaient le mieux, qui en savaient le plus et comprenaient le plus de plaisir à écouter. La parole de l'imaginaire circulait beaucoup. Plusieurs personnes pouvaient raconter. La pratique est très ancienne, mais le métier avait souvent une forme multiple. Ludovic Suliman est un homme de parole. Il aime conter ce qui a été collecté près de l'endroit où il conte. À la demande du collectif Tous Citoyens, Tous Concernés, il interviendra sur la ville de Persan pour deux projets, Paroles de vie et Graines de mémoire.
Ludovic Suliman, conteur. Bon, c'est pas du cinéma le conte. Peut-être que le cinéma, c'est ce qui se rapproche le plus du conte. Mais c'est pas le contraire. Parce que moi, eh bien, je fais que raconter une histoire, et puis ceux qui écoutent, ils l'imaginent. Je prends un mot, je dis imaginer, imaginer, imaginer un chemin. Et tout au bout du bout du chemin, eh bien, une forêt. Au cœur de la forêt, il y a un arbre, le plus grand de tous les arbres de la forêt. Au sommet de l'arbre, une branche. Au bout de la branche, un nid. Dans le nid, un œuf. Dans l'œuf, un oiseau minuscule. Et dans l'oiseau minuscule qui est dans l'œuf, dans le nid, au bout de la branche, au sommet de l'arbre, au cœur de la forêt, au bout du chemin, il y a un petit cœur d'oiseau qui bat tout bas, tout bas, tout bas.
Ludovic Suliman, vous êtes conteur itinérant.
Voilà. Ouais.
Avant de devenir artiste professionnel, vous avez participé à de nombreux projets d'éducation populaire avec l'outil du conte et le travail de la parole. Aujourd'hui, vous êtes toujours en quête de parole. Vous semez des contes et récits de vie, graines d'humanité et ainsi que des graines de mémoire. Comment collectez-vous les récits de vie et comment est la récolte au bout du chemin ?
Alors, justement, c'est un chemin de rencontre. Ce qui est important, c'est d'arriver quelque part, de découvrir un endroit, un quartier, une ville, des gens, et après de prendre rendez-vous avec des gens et d'être curieux de eux, de leur histoire, d'où ils viennent, de leurs émotions, je dirais, parce que pour moi, l'émotion, c'est voilà, ce mouvement de la vie qui est à l'intérieur de chaque être, et comment aussi l'importance des souvenirs, comment les souvenirs nous construisent, comme autant d'expériences. Donc moi, je suis un peu un quêteur de mémoire. Voilà, je donne des histoires, des contes, et je propose aux gens de raconter ce qu'ils ont vécu. En même temps, ça se fait dans un cadre qui est fixé, en leur expliquant que cette parole, elle peut être utile à d'autres. Finalement, connaître l'histoire de l'autre, ça nous permet nous-mêmes de nous connaître nous, de nous construire, de grandir, de s'enraciner. Donc voilà, c'est une façon de reconnaître chaque personne, femme ou homme, en tant qu'individu, et dans ce qu'il est par rapport à son ressenti. Donc voilà. Donc moi, tout ce travail, c'est un travail de rencontre, de collectage, de rendez-vous, où j'enregistre. Il y a tout un cadre qu'on fixe ensemble. Il y a dans l'idée que c'est important, justement, que ces paroles, elles se perdent pas. C'est que l'histoire, elle est utile à tout le monde, et notamment les histoires des gens qui vivent quelque part. Parce que souvent, on est de plus en plus vers une espèce de déshumanisation, parce que c'est un peu partout pareil, partout les mêmes boutiques, partout les mêmes habits, les mêmes marques. Il y a de moins en moins de choses différentes, alors que chaque histoire, pour moi, étant tellement différente, ben voilà, tout d'un coup, on se reconnaît dans l'histoire et non plus dans ce qui, pour moi, est superficiel, quoi. Donc, c'est une façon d'aller vers l'authentique de l'autre, de l'être, et très simplement, avec beaucoup, beaucoup de curiosité, d'amour, du prochain, dans ce qu'il est, d'accepter aussi les gens, dans ce qu'ils ont à raconter. Donc, voilà, je fais un travail un peu de... comme si on se baladait dans la mémoire de quelqu'un, quoi.
Pourriez-vous nous parler de vos recueils et livres ? Vous en avez édité combien ?
Alors, il y a un livre qui avait été édité au temps des tristes, qui s'appelait « On n'est pas là pour rien », donc qui avait été édité maintenant déjà une douzaine, même plus, je dirais il y a 15 ans. Après, il y a un livre qui a été édité chez Albin Michel qui s'appelle « Les mille et une vies ». Pareil, autour des récits de vie. Après, j'ai une petite structure éditrice, on a monté avec un ami qui s'appelle L'Arbre qui parle, où là, il y a deux livres qui ont été édités, qui s'appellent T'as compris et Hawaï Siliki, qui mélangent contes et récits. Ensuite, j'ai un livre qui a été édité il y a 2 ans, là, aux éditions La Malle d'Aurore, dans les Pyrénées, sur un projet qui s'est fait entre Tarbes et Lourdes, avec un photographe et des paroles des gens aussi, donc des récits à chaque fois à la première personne du singulier, des récits très très forts aussi. Donc et puis il y a eu un livre qui a été fait à Viry-Châtillon, hein, qui a été fait sur Gonesse, sur un travail autour d'un quartier qui s'appelle La Fauconnière. Il y a eu aussi un livre qui est sorti au Tréport, hein, qui s'appelle Les escaliers ne parlent pas. Et un autre livre qui est sorti à Grande-Synthe dans le Nord, un très beau livre, qui s'appelle C'est à nous cette vie. Et puis bon, et un dernier livre que j'ai fait qui est un livre de contes et qui parle de la ville aussi, qui s'appelle « À ça, j'y ai pas pensé » aux éditions Utopiques et qui est sorti l'an dernier.
Voilà. Vous combinez le métier d'écrivain et de conteur?
Disons que je suis un homme de parole, donc tout ce qui est autour de la parole m'intéresse. Donc le conte, l'idée de pouvoir écrire une parole, un récit, un conte. Donc je dirais, dans la tradition, on dit l'écriture, c'est le moyen de fixer l'oralité. Moi, je me définis avant tout comme un homme de parole, avant tout comme plus un homme d'oralité qu'un homme d'écriture. Et donc souvent on dit, on parle d'oraliture. Donc c'est une sorte d'écriture de l'oralité, donc ou oralure. Donc voilà, moi j'aime bien, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la parole vivante, quoi. C'est là où je crois qu'on a le plus à recevoir et à transmettre.
Vous avez donné un spectacle de contes à la MJC de Persan, suivi d'un moment d'échange avec le public. Ouais. Vous avez proposé aux spectateurs une autre dimension de leur environnement proche. Avant tout, comment naissent ces histoires?
Alors là, c'était un chemin qui était un peu improvisé que j'ai fait parce que justement, l'idée c'était de pouvoir partager des histoires avec les gens qui étaient là, avec, de tous leurs âges. Donc, moi, mes chemins d'histoire, c'est plutôt comme un rêve. Un film que je crée avec mon imaginaire. Et je vais prendre, par exemple, un conte peut-être traditionnel au départ pour le transformer avec moi des choses que je trouve à l'intérieur de l'histoire. Donc, c'est très proche du cinéma, en fait, le conte. Souvent, je dis, l'art qui se rapproche le plus du conte, c'est du cinéma, mais le conte, c'est pas du cinéma. Mais on est en même temps metteur en scène, on est en même temps des personnages, on se transforme, on est en même temps dans la salle avec les gens et on est en même temps dans l'histoire. Donc on passe notre temps à changer, je dirais, d'endroit, à accélérer le temps, à le ralentir. Donc c'est un peu, un peu une folie, on va dire. Hein. Et les esprits imaginent à leur tour, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup à imaginer, plus qu'à voir. Et le corps, il accompagne, parce que l'oralité, c'est le corps aussi, c'est pas que les mots. C'est-à-dire qu'on va marquer, on va scander, on va accentuer. Donc il y a des accents, il y a une espèce de grammaire de l'oralité et une syntaxe qui est celle justement, et une ponctuation qui sont celles du corps, des inflexions de la voix. C'est tout ce travail-là qui fait que l'histoire, elle est vivante. Et chacun la vit à travers le conteur, en quelque sorte.
Vous avez un instrument avec vous? Vous l'utilisez à chaque spectacle?
C'est presque systématique parce que c'est devenu un compagnon, cet instrument. C'est ce qu'on appelle un piano à pouce, mais dans la tradition en Afrique, on l'appelle senza ou kalimba. C'est un instrument très ancien qu'on retrouve dans toute l'Afrique subsaharienne, aussi bien au Mali qu'au Burkina, qu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au Zimbabwe, sous différentes formes. On le trouve aussi au Congo, enfin dans plein de pays, il y a des traditions liées à cet instrument. Voilà, il y a même un mythe qui raconte que cet instrument est le plus vieux du monde. Et cet instrument, moi, je m'en sers vraiment pour parler, pour poser des choses, pour amener les oreilles à écouter aussi, parce que les notes sont douces, elles nous caressent un petit peu. Et donc, voilà, donc il est quasiment toujours avec moi, partout où je raconte, en spectacle ou pas d'ailleurs.
Et donc, qu'en est-il ressorti de ce moment d'échange avec le public?
Il y a eu le temps de conte qui a été, je trouve, où il y a eu beaucoup de plaisir et les enfants ou les adultes, ils ont voyagé à travers les contes. Et puis, le second temps, ce qui était bien, c'est d'avoir pu justement dire que je vais revenir, mais cette fois non pas pour raconter mes histoires ou les histoires que j'ai imaginées, mais pour récolter des histoires de personnes. Et ça, c'était important. Moi, j'ai beaucoup aimé justement tout de suite, les gens, ils sont attentifs à la question de leur propre histoire. Et qu'est-ce que devient mon histoire? Et à travers l'histoire de l'autre, puisque j'ai donné des graines de mémoire qui venaient d'ailleurs, et je leur ai dit, l'année prochaine, on fera des graines de persans, des graines des gens d'ici. Je ressens à chaque fois, justement, un grand intérêt dans l'idée que finalement, ici aussi, on a des histoires, on existe.
C'est difficile de dire d'un conteur qu'il est le gardien d'une mémoire, puisque vous ne gardez rien pour vous. À travers votre métier de conteur, avez-vous l'impression de continuer une sorte de tradition sacrée?
Alors, Là, c'est un grand mot, hein, tradition sacrée, mais tradition, oui, dans le sens où on est dans une continuité. Les contes aujourd'hui s'adaptent, on les a crus morts avec le livre, on les a crus morts avec la télé, Internet. Et néanmoins, moi qui suis conteur et qui voyage beaucoup avec le conte, je m'aperçois que partout sur la planète, parce que je voyage aussi dans d'autres pays, ben, les contes renaissent, parce qu'il y a un besoin. Et les contes nous apprennent beaucoup en peu de temps. Et en plus, si on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui sont très à la mode. On va prendre par exemple les jeux vidéo, hein, et on va prendre les séries. Eh bien, les séries s'inspirent beaucoup justement de la façon dont les contes sont écrits, avec des rebondissements, des imprévus, avec des personnages très très centrés. Et puis, il y a tout ce côté un peu imaginaire, folie. Et dans les jeux vidéo, on a tous ces éléments-là aussi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, en fait, le conte, il est là, il imprègne l'âme de l'humanité. Alors après, moi, je me situe dans une tradition, c'est vrai, parce que je pense que c'est important de raconter aussi les contes pour ceux qui sont et dans leur essence, c'est-à-dire juste avec le corps. Nous, rien qu'avec nous, notre puissance, elle est là. On n'a pas besoin de réalité augmentée, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de réalité augmentée en parlant de numérique. Moi, je crois pas. Je pense que ce qui augmente la réalité beaucoup plus puissamment, c'est l'imaginaire. Notre imaginaire, il est surpuissant. Il est 1000 fois plus puissant que toutes ces machines. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de stimuler cette part-là qui est à l'intérieur de chaque être. Et on permet de développer une forme de créativité où tout d'un coup, on va jouer avec le langage, on va jouer avec les personnages, on va jouer avec des histoires. Et on a finalement besoin de juste notre imaginaire et d'être avec d'autres pour partager, quoi. Et c'est là où on s'aperçoit de toute la richesse de ça, parce qu'avec rien, on peut énormément faire de choses. Bon, alors après, voilà, il y a un apprentissage. Mais déjà, c'est donner le coup d'histoire. Et moi, je vois, je travaille là sur des projets avec des jeunes ou des scolaires. Ben, je leur propose très vite de raconter, et très vite, que ce soit, je prends par exemple au collège ou en école, il y a des jeunes qui spontanément vont essayer de raconter. Alors au début, ils sont un peu gauches, c'est comme quelqu'un qui est maladroit qui apprend à marcher, mais vite, ils prennent goût. Alors il y a des jeux qu'on fait pour justement que la transmission puisse se faire. Alors je dirais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de professeur de rêve et de conte à l'école, mais le mot professeur, justement, c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense que ce serait des choses qui amèneraient énormément à chaque individu pour se construire.
Professeur de rêve, vous dites ?
Ouais.
Ah, c'est pas mal, hein. C'est...
Moi, à l'école, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas rêver, donc il m'a manqué un professeur de rêve.
Alors, vous êtes venu à Persan à la demande du collectif Tous Citoyens, Tous Concernés, pour un projet, Les Graines de Mémoire. Est-ce que c'est un projet similaire à celui que vous avez mené sur la ville de Beaumont ?
Oui, en partie. Donc, c'est l'idée de rencontrer des gens, de leur donner la parole, de récolter des récits, enfin, des paroles et ensuite les retranscrire, donc d'en écrire sous la forme de récits. Donc, le travail d'écriture, je vais le faire à partir d'une parole enregistrée. Et ensuite, il y a aussi l'idée de travailler avec des groupes sur une autre forme de parole qui s'appelle parole de vie. Ça n'a pas été fait à Beaumont. Et là, c'est des chemins autour, moi, chaque fois je viens, je raconte un conte, deux contes, et puis j'amène des symboles. Alors, c'est des dessins qui sont représentés sur un tissu qu'on appelle un bogolan. Une tradition du mandingue qui est née au Mali. Et donc c'est une très belle peinture qui était faite sur un coton du Mali, qui était tissé à la main, et où on voit des dessins. Et chaque dessin veut dire quelque chose. Donc l'idée, c'est de jouer avec ces symboles, puisque chaque symbole est lié à une force de la vie ou de la nature, et de dire, mais finalement, moi, j'ai besoin de quoi pour moi? Parce que on est dans une société aussi où on a de moins en moins le choix. On est dans le non-choix, où j'ai pas le choix, où je ne peux pas faire autrement. Et là, tout d'un coup, l'esprit, lui, peut se libérer quand même en partie de ce monde matériel où tout d'un coup, on va pouvoir avoir un choix de choisir des choses pour soi. Ça peut être par rapport à sa vie en tant qu'individu, femme, homme. Ça peut être aussi par rapport à ses rêves. Voilà, c'est tout d'un coup d'ouvrir d'autres portes à l'intérieur de quelqu'un que celles où on enferme les gens aujourd'hui, quoi. Et dans un rapport qui n'est pas mercantile, on n'a rien à vendre, en fait. On est dans un rapport où le trésor, c'est le savoir. Et on a chacun un savoir qui nous est propre. Et donc de découvrir ça à l'intérieur de soi en jouant avec les symboles. Donc voilà, il y aura les deux projets qui vont s'articuler.
C'est un long processus. Au bout de combien de temps pourrons-nous lire les graines de mémoire? Et est-ce que
Alors,
vous savez
c'est qu'on... un projet qui va se faire sur une période qui va démarrer de mars, qui va se concrétiser en juin. Donc c'est une période assez courte. En même temps, c'est pas un projet où je vais voir énormément de gens, puisque justement on est sur des moyens qui sont limité, donc l'idée c'est de rencontrer quelques personnes et déjà de créer un premier petit sac, en fait. Et l'idée c'est que ces paroles elles puissent donner l'envie, en tout cas, et les moyens d'aller plus loin et de rencontrer plus de gens, d'avoir de l'ambition. Parce qu'en culture, je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Donc ce processus va démarrer en mars et a priori déjà il y aura une première étape qui sera achevée en juin, puisque les graines sortiront pour la mi-juin.
Et vous savez à peu près combien il y en aura?
Bon, je pense qu'il y en aura entre 20 et 30, 20 ou 30 récits différents, mais précisément non. On va travailler avec un petit groupe de personnes, sans doute 5-6 personnes, parce que justement on a un problème de moyens, très concrètement, mais c'est malheureux, mais c'est un peu ça, parce que la culture est toujours un peu déshéritée en ce moment, parce qu'il y a des diminutions de budget, et ça c'est malheureux, alors que moi je pense que c'est là qu'il faut investir, parce que beaucoup des problèmes ne sont pas des problèmes de sécurité, mais justement, il faut être dans l'éducatif, dans la culture, dans tout ce qui réunit les gens. Moi, je dirais que ça n'a pas de prix, quoi.
Et c'est pas évident de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on ne connaît pas. C'est un gros travail pour vous.
Ben, c'est une rencontre. Après, vous savez, les gens, ils parlent librement. Après, ils donnent ce qu'ils veulent donner. Après, moi, c'est vrai que je suis curieux. Il y a une empathie. J'ai eu dans une écoute. Et donc, les gens, des fois, ils peuvent livrer des choses qu'ils n'ont jamais livrées parce que je suis aussi un étranger. Donc, c'est plus facile des fois de dire à un étranger des choses. Après, tout ne sort pas forcément des entretiens. Donc, tout ça, c'est variable. Ça va dépendre de chaque rencontre. Mais ça va vite, en fait.